Sur la radio ouverte Europe 1 jusqu'à 8h45, nous sommes avec Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. Merci d'être resté sur l'antenne pour répondre à nos auditeurs, monsieur le ministre.
Avec plaisir.
Avant d'accueillir Fabien au 39-21, cette question qui va en rassembler plusieurs, je vois Blanchette qui nous dit les déplacements entre deux départements sont-ils autorisés s'ils se font dans la limite des 100 km. Déborah qui nous dit mon grand-père est en EHPAD à plus de 100 km de chez moi, il a 97 ans, ma famille habite à côté, puis-je aller les voir. Il y a beaucoup de questions très pratiques comme ça, Jean-Baptiste Djebbari.
Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, je l'ai redit un petit peu dans mon propos juste avant. Le principe, c'est que il y a liberté des déplacements avec effectivement des restrictions au-delà pour des trajets qui dépassent les 100 km et qui ne sont permis que pour des motifs impérieux, familiaux ou professionnels. Professionnel, on voit bien évidemment ce que ça veut dire. Et familiaux, ça peut correspondre à des situations du type à récupérer ses enfants quand vous êtes en garde partagée. Et pour les visites en EHPAD, je le dis très souvent, ça se noue, en tout cas ça se négocie entre guillemets avec les EHPAD parce qu'ils doivent mettre en place les conditions de l'accueil. Vous savez que le président de la République a eu des mots sur l'accueil,
bien sûr. La question, c'était surtout pour s'y rendre physiquement, pour aller d'un département à l'autre ou faire plus de 100 km.
Oui, mais je sais que pour faire l'exercice très très concrètement dans mon entourage, je vois bien que bien souvent le sujet est évidemment de s'y rendre, et je pense que cela peut tout à fait qualifier d'un motif impérieux sur le plan familial, mais c'est aussi beaucoup les circonstances d'accueil et la capacité pour l'EHPAD d'accueillir les visiteurs, comme vous le savez, en nombre limité et dans des conditions sanitaires qui doivent être exemplaires. Donc je le dis, il y a le sujet du transport bien sûr, mais il y a aussi surtout le sujet de l'accueil sanitaire, et je vous le redis, je pense que beaucoup de Français ont fait, y compris quand l'EHPAD est à proximité, l'expérience des difficultés aujourd'hui en termes d'accès, même si le cadre a été, et c'est heureux, assoupli depuis peu.
Fabien est en ligne avec nous depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Fabien.
Bonjour Mathieu.
Soyez le bienvenu sur Europe 1. Vous êtes en direct avec Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour Monsieur Djebbari. Je vous appelle.
Bonjour.
Je suis conducteur de ramassage scolaire. Je voulais avoir des renseignements sur cette décision de mettre un siège sur deux. Quand on sait le nombre d'élèves qu'on a par autocar, je ne sais pas comment on va faire à moins de mettre deux cars. Et dans ces cas-là, il va falloir trouver deux chauffeurs en catastrophe. Comment les faire respecter aussi le fait que dans le car, ils ne changent pas de place et qu'ils ne se mettent pas l'un à côté de l'autre, qui va devoir, si on conduit, on n'a pas le temps de faire la police derrière. Si on arrive à un arrêt de car, qu'un gamin n'a pas de masque, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le laisse sur le bord de la route, sachant que le code de la route nous interdit formellement de laisser un mineur sur le bord de la route si jamais il lui arrive quelque chose. Enfin, il y a des tas de questions qu'on se pose, donc je voulais savoir si vous pourriez nous donner quelques éclaircissements.
Mais d'abord, Fabien, vous avez raison de rappeler que ça pose beaucoup de questions et que ces questions, nous allons y répondre en lien avec ceux qui organisent les transports scolaires. Et vous savez que, je ne sais pas d'où vous êtes, mais que la situation chez vous, les circuits, les dessertes scolaires ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que dans d'autres départements, et que ceux qui organisent les transports scolaires sont les départements, les régions, les collectivités locales. C'est beaucoup, les transports scolaires, c'est un élève sur trois, c'est 4 millions d'élèves qui chaque jour les fréquentent. Vous savez que l'école va reprendre progressivement, vous savez que à l'école, il y aura des dispositifs différents selon que vous êtes à l'école maternelle pour le port du masque, selon que vous êtes à l'école maternelle, à l'école, au collège ou au lycée. Donc tout ça va évidemment s'organiser. Il y aura évidemment une symétrie entre les exigences du port du masque dans les écoles ou dans les établissements et dans les transports scolaires. Et c'est tout ça que nous allons devoir mettre en œuvre pendant ces trois premières semaines du déconfinement progressif. C'est pas simple, ça pose plein de questions pratiques que vous avez très bien citées, qui sont les questions qu'évidemment nous avons en tête, pour lesquelles nous avons commencé à proposer des embryons de réponses, mais qui se construisent en proximité, en lien avec les élus qui connaissent le mieux à la fois les dessertes des transports scolaires, leurs chauffeurs, les entreprises qui organisent ces transports.
Et vous voyez bien que c'est comme ça que nous allons répondre. Ça n'est pas encore tranché en fait, Jean-Baptiste Djebbari.
C'est pas que c'est pas encore tranché, c'est que à chaque territoire va correspondre le circuit de desserte. J'imagine dans les territoires rouges que vous aurez peut-être, vous savez que nous avons différents niveaux de circulation de l'épidémie, des territoires verts, des territoires rouges pour le dire simplement. Il est évident que nous aurons peut-être plus d'élèves dans les territoires verts où les parents vont peut-être remettre plus facilement ou plus naturellement leurs enfants à l'école, donc peut-être plus de demandes ici de transport scolaire. Donc tout ça va s'organiser, voyez, selon des dynamiques locales. Et donc je peux pas avoir là un propos depuis mon bureau du ministère des Transports très général, parce que la réalité du terrain va évidemment primer.
Évidemment. Et Fabien, du coup, vous devrez quoi, vous tourner vers votre employeur, vers la collectivité?
Il est évident que...
Parce qu'il y a tellement de questions qui se posent, d'autant plus qu'on nous annonce que les chauffeurs de plus de 65 ans ne seront pas autorisés à reprendre le travail. C'est une information qui circule ici.
Ah bah attendez, je vous arrête. Fabien, je vous arrête tout de suite.
Les plus à risque.
On sait que les personnes âgées sont les plus à risque, mais est-ce que, est-ce qu'effectivement...
Le problème, c'est qu'en ramassage scolaire, vous n'avez que des personnes retraitées, donc comment on va faire?
Alors, Fabien, très bonne question, mais Jean-Baptiste Dumarié est là.
C'est effectivement une... Alors, ce n'est pas... Moi, je n'ai pas cette information-là, et je l'ai dit encore une fois, ce sera très large. Largement le transport scolaire à la main des maires et des préfets qui localement pourront adapter les mesures. Il n'y a pas de mesures générales qui disent que au-delà de 65 ans vous ne pouvez plus effectuer le transport scolaire. Par contre, ce qui est vrai, ce que dit Fabien est tout à fait juste, il y a des personnels qui sont plutôt plus âgés que la moyenne des chauffeurs de bus pour le transport scolaire, et ça pose évidemment la question de l'absentéisme, de tous ces sujets que nous avons vus émerger ces derniers temps. Et donc je le dis, il y aura sur ces sujets-là des informations très précises dispensées par le couple formé par le maire et le préfet, et c'est bien l'entreprise de Fabien et toutes les autres qui devront en lien avec les autorités locales mettre en place les bonnes mesures pour que ça se passe dans des bonnes conditions.
Merci Fabien, cette question concerne évidemment les chauffeurs scolaires, mais pas seulement les parents d'élèves, l'organisation des écoles, les mairies, les préfets, on l'a compris. Merci Fabien pour cette question. D'autres sont en attente, on revient dans quelques toutes petites secondes avec Jean-Baptiste Djebbari sur Europe 1, le secrétaire d'État au transport. A tout de suite.
Mathieu Béliard.
Et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, avec nous. Nous accueillons Martial au 39-21. Bonjour Martial.
Bonjour.
Vous êtes dans le Val-de-Marne, je crois.
Absolument.
En région parisienne, donc. Votre question pour Jean-Baptiste Djebbari.
Oui. Bonjour, merci, monsieur le secrétaire d'État.
Donc, Martial, est-ce que vous voulez bien couper la radio derrière vous?
Pas de souci.
Parce qu'on vous entend en écho. C'est pour qu'on comprenne bien votre question. Allez-y, Martial, c'est à vous.
Merci, monsieur le secrétaire d'État. Vous pouvez remercier votre premier ministre pour la clarté de son discours derrière. C'était magnifique, le planning, on a tout. Ma question, elle est assez courte, en fin de compte. Les départements d'outre-mer donc sont attachés à la France. Donc, on est très fiers d'être attachés à ça. Donc, je me pose la question, à quel moment qu'on pourra voyager pour aller en Guadeloupe et faire le trajet inversement? Parce que j'ai ma compagne qui est en Guadeloupe, elle doit venir le 4 mai. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas quand elle pourra prendre son billet pour venir. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre clairement? Et je vous remercie de votre présence à Radio Europe 1 et aussi RCI, aussi en Guadeloupe. Merci beaucoup.
Bien, c'est très clair. Merci Martial, reste en ligne.
Merci pour le remerciement sur la clarté du discours du Premier ministre.
Bon, ça vous va, j'imagine, Jean-Baptiste.
Écoutez, je prends. C'est pas si fréquent.
Tu mets les petits plats dans les grands, Martial.
Donc, voilà, je prends. Non, ce que je veux dire, c'est que pour les Outre-mer, nous travaillons très localement avec les préfets sur tous les sujets, c'est-à-dire à la fois sur ce qu'on appelle la continuité territoriale, c'est-à-dire les déplacements des personnes entre la métropole et les Outre-mer, sur évidemment le fret, et c'est donc quelque chose qui est piloté très localement par les préfets. Vous savez qu'heureusement, pour l'instant, dans les Outre-mer, nous n'avons pas eu des niveaux de contamination ou de circulation du virus comparable à ce qui a pu prévaloir dans le Grand Est, en Île-de-France ou ailleurs, et qu'évidemment nous voulons préserver les Outre-mer et les territoires de cette contamination, parce que bon, voilà, chacun peut imaginer les conséquences que ça pourrait avoir, et que nous continuerons au gré de l'évolution de la situation sanitaire de piloter très finement avec les préfets localement pour voir quels services aériens nous ouvrons, et puis plus généralement ça pose la question de savoir quelles mesures sanitaires dans le transport aérien nous allons mettre en œuvre. J'ai un conseil des ministres des transports européens tout à l'heure à 17h, où nous tenterons d'harmoniser à la fois les mesures sanitaires que nous prendrons et de coordonner les calendriers de manière à pouvoir faire redémarrer le transport aérien en toute sécurité. Donc voilà, sur ces deux questions, j'espère avoir répondu le plus précisément possible à Martial.
Non, mais c'est vrai que la question du transport se pose. Alors, il y a plein de questions sur le tourisme, les vacances, et on a bien compris qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, qu'on est pour l'instant sur le mois de mai et pas encore sur l'été. Mais c'est vrai que Martial soulignait que là, il ne s'agit pas de... Même si c'est un long courrier, il ne s'agit pas de l'étranger, on parle de la France quand même.
Non, mais la raison pour laquelle il y a des vols. Encore aujourd'hui, il y a quelques vols par semaine à destination des départements et des territoires d'outre-mer. Quelques vols pour les raisons que j'ai précisées tout à l'heure. Mais évidemment, nous avons maintenu, du reste comme pour la Corse, la continuité territoriale. Il y a des vols entre la Corse et Nice et Marseille. C'est évidemment important. Ça doit être fait dans des circonstances maîtrisées. Et oui, c'est encore un peu compliqué sur la question que vous posez de se projeter à l'horizon des vacances. Je pense que nous aurons un point d'étape important fin mai, début juin, en tout cas le 2 juin, pour au moment duquel nous pourrons nous projeter sur ce qu'il est possible de faire cet été. Mais c'est vrai que la prudence sanitaire face à l'incertitude, y compris scientifique, que nous connaissons, doit aujourd'hui nous conduire à aborder chaque jour avec beaucoup de précautions.
Olivier nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte, sur un quai de gare, de métro, de RER ou de tramway, quels seront les indicateurs qui vont permettre de limiter l'accès pour respecter les gestes barrières? Est-ce qu'il y aura des compteurs, des agents de sécurité?
Ben c'est exactement le type de question auxquelles nous allons répondre ces jours-ci. Je peux vous dire ce qui s'est fait ailleurs, parce que j'ai évidemment beaucoup parlé avec mes homologues, y compris européens, mais aussi ceux qui ont vécu la crise avant nous, les homologues chinois, sud-coréens, singapouriens, hongkongais. Eux ont procédé en général effectivement à des comptages. Ils ont posé souvent des marquages au sol. Ils ont ordonné les queues, alors les queues dans les couloirs, parfois les queues dans la rue. Et donc vous voyez bien que tout ça va devoir être passé au tamis de la réalité locale. C'est pas tout à fait pareil de parler d'une station de métro avec 10 sorties et 4 lignes en correspondance que de parler d'une ligne de bus unique avec 4 stations ou 4 points de desserte. Donc encore une fois, vous savez, le transport c'est pas un truc théorique, et c'est d'ailleurs ce qui en fait son intérêt, c'est extrêmement pratique et que pas une situation ne ressemble à l'autre. Donc nous allons faire ce travail de dentelle, de corrélation entre les principes généraux et la réalité du territoire, et c'est un travail qui va nous occuper intensément ces prochains jours.
Régis, je terminerai par là. Régis demande si on peut reprendre l'activité en auto-école.
Alors, je n'ai pas la réponse à Régis, et donc je ne préfère pas dire de bêtises, mais si vous me donnez ses coordonnées, je l'appellerai dans la journée pour lui faire part de cette information.
Eh bien écoutez, on va vous transmettre les coordonnées justement de tous les patrons d'auto-école qui nous appellent, peut-être pas Jean-Baptiste Djebbari.
Non, mais Régis du coup fera
bien
le
sûr,
porte-voix.
On attendra la réponse évidemment. Merci Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. Merci d'être venu répondre à nos auditeurs. Je tiens à saluer Martial qui était en ligne avec nous, Fabien qu'on a entendu aussi, mais ceux que l'on n'a pas passé, qu'on a lu dans notre voix, Marie-Odile, Grégory, Stéphane, énormément de questions. Olivier, ces questions sur les transports qui concernent les Français, évidemment. 8h44.